Apôtres, au chapitre 1er et au verset 8, voilà, nous lisons une promesse du Seigneur qui est chère à nos cœurs, en tout cas qui doit l'être. Acte chapitre 1er, verset 8, c'est Jésus qui parle et qui, avant de retourner dans la gloire céleste, fait cette promesse au Seigneur, aux disciples, pardon. Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous. Ou certaines traductions disent vous recevrez de la puissance, celle du Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Et une dizaine de jours après, la promesse s'est accomplie. Alléluia. Et au chapitre 2, verset 1er, il est dit ceci, le jour de la Pentecôte. Ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux, et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues, semblables à des langues de feu, leur apparurent séparées les unes des autres, et se posèrent sur chacun d'eux. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Voilà, la venue du Saint-Esprit sur ces quelques 120 hommes et femmes réunis dans la chambre haute. Et suite à cela, l'apôtre Pierre a prêché cette merveilleuse prédication de l'Évangile. Et au verset 37, il est dit ceci, qu'après avoir entendu ce discours, ils, c'est-à-dire ses auditeurs, ils eurent le cœur vivement touché. Et ils dirent à Pierre et aux autres apôtres, « Hommes, frères, que ferons-nous » Pierre leur dit, « Repentez-vous, et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ, il s'agit du baptême d'eau bien sûr, pour le pardon de vos péchés, et vous recevrez le don du Saint-Esprit, car la promesse est pour vous, pour vos enfants et pour tous ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur, notre Dieu, les appellera. Amen. » Voilà, et si j'en crois ce texte, eh bien la promesse, elle est pour qui? Elle est pour nous, parce que par-delà les siècles, eh bien ce texte nous concerne encore aujourd'hui. Oui, ce matin, je veux vous parler du baptême dans le Saint-Esprit et de tout ce qui va avec, tant ce qui précède le baptême du Saint-Esprit que ce qui le produit et que ce qui le suit, en tout cas qui doit le suivre. Tout d'abord, le Saint-Esprit, eh bien, a commencé une œuvre en nous lorsque nous avons été à l'écoute de la parole de Dieu. Souvenez-vous peut-être de cette première réunion où, alors que vous étiez dans votre religion ou que vous n'aviez pas de religion particulière, vous êtes venu dans un lieu semblable à celui-ci et vous avez entendu pour la première fois de votre vie l'Évangile prêché dans son authenticité, Jésus qui sauve, Jésus qui guérit, Jésus qui revient et Jésus qui baptise justement du Saint-Esprit. Et là, à l'écoute de cette parole, le Saint-Esprit a produit en vous une œuvre de persuasion. Il vous a convaincu. De quoi? Eh bien, selon ce que dira Jésus dans l'Évangile de Jean, lorsque le Saint-Esprit commence son œuvre en nous, il commence par nous convaincre de péché, de justice et de jugement. Il nous convainc que nous sommes des pécheurs. Tout à coup, c'est comme si un voile se déchirait et nous prenons conscience de notre misère spirituelle, nous nous voyons coupables, nous nous sentons misérables devant Dieu et irrémédiablement perdus si nous en restons là. Mais le Saint-Esprit aussi, à l'écoute de cette parole, nous convainc que Jésus est le Sauveur, alléluia, que Dieu nous a envoyé et que, à la fois par sa mort et à la fois par sa résurrection, il a réalisé en notre faveur une œuvre de rédemption de notre salut, et notre seul refuge, eh bien, était de saisir l'espérance qui nous était proposée. Et il nous convainc également que le diable a été vaincu et que par Christ, gloire à Dieu, nous pouvons échapper à son emprise. Voyez-vous ? Et lorsque cette conviction se produit, eh bien cette conviction, cette persuasion opérée en nous par le Saint-Esprit nous amène à nous repentir et à placer notre foi en Christ. C'est ce qui s'est passé là, le jour de la Pentecôte, après que Pierre eut prêché l'Évangile, ses auditeurs, nous dit le texte, eurent le cœur vivement touché. Dans le texte original grec, c'est encore plus poignant que ça. Le texte dit littéralement, ils furent transpercés au cœur. Vous savez que dans l'Épître aux Éphésiens, il est dit que la parole de Dieu, c'est l'épée de l'Esprit. Eh bien, c'est ce qui se produit là. Hein, c'est comme si une épée spirituelle, les avait traversés de part en part. Ils eurent le cœur vivement touché. Que ferons-nous ? Et Pierre a conclu en disant, eh bien, repentez-vous et soyez baptisés pour le pardon de vos péchés. C'est vrai que la repentance et la foi s'expriment par le baptême, qui est l'engagement solennel par lequel nous décidons de faire de Jésus notre Sauveur et notre Seigneur. Car, mes amis, Jésus ne peut pas être notre Sauveur s'il n'est pas notre Seigneur. Lorsque le geôlier de Philippe a posé cette question, « Que faut-il que je fasse pour être sauvé ?» Paul a répondu, « Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé. » Ce n'est pas simplement une émotion intérieure, mais c'est un choix de vie. Je fais de Jésus le maître, le Seigneur de ma vie. L'Épître aux Romains nous dit, n'est-ce pas, si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, mais également si tu confesses de ta bouche que Jésus est Seigneur, c'est-à-dire si tu fais de lui le Seigneur de ta vie, tu seras sauvé. Voilà ce qui s'est passé pour nous. Nous avons accepté Christ en tant que Sauveur, en tant que Seigneur. N'est-ce pas ? Nous avons été plongés dans le bain baptismal et dès ce jour, le Saint-Esprit eh bien, a demeuré en nous et il a fait de notre corps son temple. Alléluia ! Gloire à Dieu ! Le temple du Seigneur, ce n'est pas les quatre murs, mes amis, entre lesquels nous sommes ce matin. Le temple du Saint-Esprit, c'est vous, c'est moi, c'est nous tous ensemble et c'est chacun pour notre part. Depuis que nous nous sommes convertis, notre corps tout entier, des pieds à la tête et de la tête aux pieds, est devenu le temple, l'habitation, la demeure du Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit en nous, nous transforme, nous façonne. Selon l'expression de Jésus, il nous fait naître de nouveau. C'est-à-dire qu'il nous communique une nature nouvelle. Nous avons une nature humaine, marquée par le péché. Mais la nouvelle naissance consiste dans la réception d'une nouvelle nature, la nature de Dieu. Et Dieu nous donne une mentalité nouvelle, c'est pas vrai ? Quelqu'un me disait hier, j'étais soupaulé, j'explosais pour un louis, pour un non, je cassais tout à la maison. Heureusement que maintenant c'est plus pareil. Non pas parce qu'avec l'âge il s'est maîtrisé, mais parce que le Saint-Esprit a opéré cette transformation. Nos aspirations, nos buts, nos pensées, nos sentiments, nos paroles et nos actes ont été changés. C'est vrai ou pas ? Parce que mes amis, si c'est pas ça, on est à côté de la plaque. Hein. S'il n'y a pas ces choses-là qui se sont produites dans notre vie, il faut sérieusement douter de la réalité de notre conversion. Non, c'est pas simplement une adhésion, c'est pas simplement une signature sur une carte de membre de l'Assemblée de Dieu d'Annecy ou d'ailleurs. C'est une opération du Saint-Esprit qui vise à une transformation, une régénération intérieure. Et désormais, gloire à Dieu, eh bien, nous sommes au bénéfice de la promesse. Promesse que nous avons lue, n'est-ce pas ? Et il nous est dit ceci, la promesse est pour vous. Vous recevrez le don du Saint-Esprit. Le don du Saint-Esprit, car la promesse est pour vous, pour vos enfants, et pour tous ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera. Ceux qui sont au loin, c'était pour l'apôtre Pierre, non pas seulement ceux qui étaient loin géographiquement, mais ceux qui étaient loin dans le temps. Si bien que la promesse, elle nous concerne, nous, qui vivons quelques 20 siècles après que ces paroles aient été prononcées, béni soit Dieu. Voilà, bénéfice de la promesse, promesse concernant le baptême dans le Saint-Esprit. Qu'est-ce que c'est le baptême dans le Saint-Esprit ? Ce n'est pas une doctrine uniquement des assemblées de Dieu, c'est la promesse de Dieu, vous comprenez ça ? C'est la promesse de Dieu. Le baptême du Saint-Esprit, c'est une communication de la puissance de Dieu. Vous recevrez, a dit Jésus, une puissance, celle du Saint-Esprit, et vous serez mes témoins à Jérusalem, en Judée, à Samarie, à Annecy, à Aix-les-Bains, à Annemasse, à Paris, à Londres, à Marseille, à New York, où vous voulez, jusqu'au bout du monde, n'est-ce pas, et par toute la terre. Puissance en vue d'un témoignage et d'un service efficace. Ce n'est pas pour rien que la parole de Dieu emploie cette expression, un baptême. Un baptême, qu'est-ce que c'est un baptême? Le mot baptême, vous le savez, ça signifie immersion. Eh bien, le baptême dans le Saint-Esprit, c'est une immersion, c'est un plongeon dans la puissance divine. Nous sommes imbibés de sa puissance. Tenez, prenons une image. Vous prenez une éponge qui est toute sèche, là. Hein? Il y a 3 semaines qu'elle est restée au bord de l'évier, vous n'en êtes jamais servi. Vous la plongez dans l'eau, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Elle s'imbibe de l'eau, elle se gonfle, vous voyez? Elle est imbibée, elle est remplie. Eh bien, comparaison n'est pas raison, mais c'est ce que Dieu veut faire avec nous. Hein? Dieu veut faire de nous des éponges, si vous voulez, qui sont imbibées de la puissance de Dieu. Sans cela, nous sommes des chrétiens, peut-être, sûrement, nous irons au ciel, oui, mais il y a quand même une certaine sécheresse spirituelle. Tandis que lorsque nous sommes imbibés, remplis, animés du Saint-Esprit, alors, mes amis, il y a la vie qui coule et qui déborde, en vue d'un témoignage, d'un service actif. Il y a là un zèle, il y a là une ferveur. Vous savez, déjà, le prophète Jérémie disait, il y a dans mon cœur comme un feu dévorant. Est-ce que vous sentez ce feu en vous, ce feu intérieur? Et il disait, je m'efforce de le contenir, mais je ne le puis. Un feu est allumé par le Saint-Esprit et il faut qu'il continue de brûler jusqu'à la fin de votre vie. Amen. C'est le cas ce matin. Où en est le feu? Où en est le feu? Vous savez, un feu, il peut être adversal. Hein? Voilà, hein? Dans une cheminée, le feu peut flamboyer, peut pétiller. Il y a une flamme vive là. J'ai remarqué ceci, c'est que le feu, ça attire. Hein? On a servi le Seigneur pendant quelques années dans des camps d'adolescents. Et des fois, c'est difficile de rameuter les jeunes. Viens par ici, viens par là. Ils courent à gauche, ils courent à droite, tu leur cours après, ils courent dans l'autre sens. Mais quand on fait un feu de camp par exemple le soir, on n'a pas besoin de battre le rappel, tout le monde s'approche du feu, ça attire, ça fait chaud, et puis il y a quelque chose de particulier dans le feu, on ne se lasse pas de le regarder, voyez. Eh bien nous devons être animés de ce feu intérieur qui va nous permettre de triompher de notre timidité naturelle. Tenez, c'est ce que l'apôtre Paul disait à son ami et collègue, le jeune Timothée. Il lui disait, Timothée, je t'exhorte à ranimer le don, littéralement à réenflammer le don que tu as reçu par l'imposition de mes mains. Et il ajoutait, car nous n'avons pas reçu un esprit de timidité, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. Mon frère, ma sœur, tu es peut-être timide de nature, tu es peut-être introverti, voyez, un petit peu comme un escargot qui rentre dans sa coquille. Hein? Voilà, c'est peut-être la nature. Mais tu n'as pas le droit de dire, mais c'est comme ça et je n'y changerai rien. Non, non, le Seigneur, lorsqu'il viendra te remplir de ton esprit, ne va pas faire de toi un farfelu. Non, non, un déséquilibré, certainement pas. Mais il va t'animer de son feu, il te permettra de triompher de ta timidité naturelle pour que tiens, ce matin, par exemple, tu puisses louer le Seigneur. Et puis, à ton voisin de palier ou à ton collègue de travail, tu puisses témoigner de ta foi. Et oui, c'est important. Vous savez, parce que le feu, on a besoin de l'entretenir. Sinon, la flamme s'affaiblit et puis finalement, le feu s'éteint. Et quelque part dans l'Épître aux Thessaloniciens, il est dit, n'éteignez pas l'esprit. N'éteignez pas l'esprit. Nous pouvons avoir ce triste pouvoir, hélas, d'éteindre en nous, par notre négligence, par notre paresse spirituelle, d'éteindre en nous le feu divin que Dieu y a allumé. Il y a parfois des chrétiens qui ont vécu il y a 10 ans, il y a 20 ans, je ne sais pas, ou il y a 6 mois, une expérience glorieuse, merveilleuse. Ah, lorsqu'ils en parlent, ils sont encore tout émus ce jour-là. J'ai été rempli du Saint-Esprit, frère, si vous saviez, comme ça a été merveilleux, j'ai parlé en langue. pendant 2 ou 3 heures d'affilée, on ne pouvait pas m'arrêter, c'était glorieux, c'était le ciel sur la terre. Oui, mais et maintenant, qu'en es-tu du feu intérieur? Est-ce que simplement ce sont quelques braises rougeoyantes qui sont dans l'âtre, tout est fini, tout est éteint, ou alors est-ce qu'encore il y a ce feu? Il faut qu'il y ait ce feu. Et ce feu, il faut constamment le ranimer, vous voyez? Lorsque on a une cheminée à la maison, peut-être certains, c'est le cas, hein? Le matin, vous vous levez, il n'y a plus grand-chose. Quelques braises qui finissent par se consumer, puis c'est terminé. Mais vous mettez du bois, vous envoyez un coup de soufflet, et hop, ça repart. Et ce matin, eh bien, le Seigneur veut donner un coup de soufflet. Et tous les matins que Dieu fait, eh bien, il faut venir devant le Seigneur en disant, Seigneur, ranime mon feu intérieur, alléluia. Ranime la flamme en moi. Je ne veux pas me satisfaire d'une expérience passée. Béni soit Dieu pour ce que j'ai vécu. Nous avons tous des choses à partager. Nous pourrions défiler tous à ce micro et dire, eh bien voilà, il s'est passé ceci, il s'est passé cela. Dans ma vie, il y a 5 ans, il y a 10 ans, il y a 6 mois, il y a. Mais c'est maintenant, c'est aujourd'hui que Dieu veut nous renouveler. Quelle est la preuve, le signe, l'évidence première du baptême dans le Saint-Esprit? N'en déplaise à ceux qui disent le contraire, mes amis, l'évidence première, le signe initial, comme nous avons l'habitude de le dire, du baptême dans le Saint-Esprit, ça a toujours été, c'est toujours et ce sera encore le parler en langue. Dans le livre des Actes au chapitre 2, dans le livre des Actes au chapitre 10, dans le livre des Actes au chapitre 19, lorsque les croyants ont été baptisés dans le Saint-Esprit, ils se sont mis à parler en langue. Ils se sont mis à parler en langue. Il y a des gens qui m'ont dit, mais à quoi ça vous sert puisque vous ne savez pas ce que vous racontez? C'est un bienfait. L'Écriture dit que quand nous parlons en langue, nous racontons les merveilles de Dieu. Vous n'avez pas envie de raconter les merveilles de Dieu? L'Écriture dit que quand tu parles en langue, tu rends à Dieu d'excellentes actions de grâce. Lorsque j'étais étudiant, eh bien, je connaissais un autre jeune chrétien, il n'était pas membre d'une église pentecôtiste. Parce que ce n'est pas le privilège des assemblées de Dieu. Dieu n'a pas dit, oh, je bénis hein, ceux qui ont le label et puis pas les autres. Non, Dieu est le Dieu de tous ceux qui ont accepté Christ comme sauveur. Vous êtes d'accord avec ça hein? On ne peut pas enfermer Dieu dans notre petite boîte en disant, Seigneur, tu agis là et tu n'en sors pas. Il dépasse les frontières de notre dénomination. Et ce garçon, vous voyez, c'était un polyglotte. Il parlait, je ne sais plus, 7 ou 8 langues. Moi, j'ai du mal à en parler une, lui, il en parlait 7 ou 8. Hein. Et il disait, même avec 7 ou 8 langues à ma disposition, j'en avais encore pas assez pour louer le Seigneur, pour lui exprimer ce qu'il y avait dans mon cœur. Alors, je me suis mis à chercher le baptême dans le Saint-Esprit. Et un jour, gloire à Dieu, il a été baptisé du Saint-Esprit, car la promesse est pour vous. Amen. Pour vos enfants et pour tous ceux que le Seigneur appellera, un aussi grand nombre qu'ils seront. Et ce garçon avait, bien sûr, au préalable, accepté Christ comme son sauveur, s'était repenti, il avait reçu le salut de son âme, le pardon de ses péchés, et il fut baptisé du Saint-Esprit. Et là, en langue nouvelle, il pouvait exprimer, n'est-ce pas, dans ce langage merveilleux, des louanges qui dépassaient son entendement, vous voyez? C'est ça, le parler en langue. On adore Dieu d'une manière merveilleuse et excellente. Le parlant en langue nous permet d'établir avec Dieu un contact, une communion, une relation d'une qualité supérieure à ce que nous pourrions le faire quand nous n'utilisons que notre langue maternelle. Certes, il faut prier avec notre langue maternelle. On loue le Seigneur comme nous l'avons fait ce matin dans notre langue maternelle, que ce soit le français, le portugais ou autre chose. On loue le Seigneur, on intercède pour le frère, pour la sœur qui est malade, pour les pécheurs perdus, pour la situation de notre pays qui va si mal. Mais aussi, n'est-ce pas, quand on est dans son culte personnel, privé. J'espère que vous avez ça. Hein? J'espère que ce n'est pas simplement de 10 à 12 le dimanche matin que vous faites votre prière. Sinon, c'est dramatique. Dans notre culte personnel, on peut abonder en action de grâce, en parlant langue. L'apôtre Paul disait, je rends grâce à Dieu. Je rends grâce à Dieu. De ce que je parle en langue, disait-il, plus que vous tous. Dans son culte personnel, voyez, il a bondé en se parlant en langue. Et, mes frères, mes sœurs, moi je vous exhorte ce matin, à parler abondamment en langue dans votre temps de prière personnelle. C'est ce qui favorise ce renouvellement constant dont nous avons tellement besoin dans notre vie intérieure. C'est un rafraîchissement. Moi, je vis ça, vous voyez. Je vis ça dans mes combats intérieurs, dans mes luttes, dans mes problèmes. Oh, l'Esprit de Dieu, quand il vient, alléluia, il me transporte et ça fait rien si je fais du bruit. Il n'y a personne à la maison en ce moment, hein. Alors je peux y aller de tout mon cœur, vous voyez. Et là, ça me fait du bien. Ça me fait du bien. Ça me fait du bien. Et Dieu veut vous faire du bien. Alléluia. Vous avez vos fardeaux, vous avez vos soucis, vous avez vos chagrins, vous avez vos luttes, vous avez combat contre votre nature personnelle, les soucis familiaux, les soucis de travail, etc., etc. Il y a la pression de ce monde, il y a les tentations, il y a les conflits intérieurs, il y a un tas de choses. Bien sûr, oh, il est écrit, déchargez-vous sur tout le Seigneur, sur le Seigneur de tous vos fardeaux. Mais dites-moi, c'est pas si facile que ça, hein? Et quand on est saisi par l'Esprit, qu'on parle en langue abondamment, waouh! Là, Dieu nous fait du bien. Dieu nous fait du bien. Dieu nous fait tellement de bien. C'est cela qui veut nous faire vivre. Sans ça, mes amis, sans ce renouvellement intérieur, sans ce rafraîchissement constant, notre vie spirituelle, elle se dessèche. Et Dieu ne veut pas que nous soyons desséchés. Dieu ne veut pas que nous ressemblions, n'est-ce pas, à des ossements tout secs, mais il veut nous rafraîchir. Sans oublier le but, par le baptême du Saint-Esprit, Dieu veut faire de nous des serviteurs, des témoins, pleins de courage, d'hardiesse, convaincus et convaincants. Gloire à Dieu. Saint-Esprit ne fera pas de nous des fous, des déséquilibrés, des farfelus ou des gens irrespectueux. Non, l'Écriture dit, défendez-vous, n'est-ce pas, avec douceur et respect devant quiconque vous demande compte de l'espérance qui est en vous. Mais quand on est saisi par l'Esprit, une parole de Dieu peut percuter un cœur. Dans un témoignage, Dieu peut vous donner la parole qu'il faut pour convaincre la personne qui est en face de vous. Ça ne veut pas dire qu'il se convertira, ça veut dire que il y aura comme une flèche qui sera plantée dans votre cœur, dans son cœur, pardon, et Dieu se servira de cela. Précisons ceci, c'est que le baptême dans le Saint-Esprit n'est pas une récompense. Non, non, non. Excusez-moi, ce n'est pas un brevet. Ce n'est pas une médaille, ce n'est pas une décoration que Dieu nous accorderait en fonction de nos mérites. Tout à l'heure, nous avons lu, là, dans les actes, vous recevrez le don du Saint-Esprit. C'est un merveilleux cadeau de Dieu par Jésus-Christ. Pas pour prouver notre supériorité ou démontrer que nous sommes de bons chrétiens. Non, c'est une grâce, c'est une grâce, c'est une faveur imméritée. Alléluia, un cadeau. Dieu, par ce moyen, veut nous permettre d'entrer dans le miraculeux divin. Oui, car sans ce miracle divin, malgré nos talents naturels, malgré nos efforts et notre bonne volonté, nous resterons inefficaces dans le service de Dieu. Alors Dieu, par son esprit, nous communique ce qui ne peut venir que de lui par le moyen de ce que l'Écriture appelle les dons spirituels. Tenez, laissez-moi vous entraîner dans 1 Corinthiens chapitre 12, verset 1er. Où il est dit ceci, pour ce qui concerne les dons spirituels, je ne veux pas, frère, que vous soyez dans l'ignorance. Il y a deux types d'ignorance. Il y a l'ignorance intellectuelle. Je ne connais pas. Je ne sais pas. Il y a l'ignorance pratique. Je connais, je sais que ça existe, mais je ne vis pas ces choses-là. Et Dieu veut nous sortir de notre double ignorance. Notre ignorance intellectuelle qui ferait qu'on n'y comprendrait rien. Intellectuellement, cérébralement, à cette affaire de don spirituel. Et puis, il veut nous faire sortir de notre ignorance spirituelle qui ferait que nous savons de quoi la question traite, mais nous ne le vivons pas, nous ne l'expérimentons pas. Dites-moi, imaginez le meilleur des pianistes. Imaginez, là, je ne sais pas, moi, je ne suis pas trop mélomane, alors vous pouvez mettre le nom que vous voulez. Mais il y a un problème. C'est un excellent pianiste. C'est le roi des pianistes. C'est un virtuose. Mais sur le piano qu'on lui a fourni ce matin, il n'y a que deux ou trois touches qui fonctionnent. Tout virtuose qu'il est, mes amis, qu'est-ce qu'il pourra faire, hein? Peut-être il pourra jouer au clair de la lune, mais pas plus. Pourquoi? Le problème n'est pas chez le pianiste, le problème est l'instrument. Chacun de nous, nous sommes l'une des touches du piano. Do, ré, mi, fa, sol, la, si, do. Et puis toute la gamme, toutes les autres. Hein? Et Dieu veut se servir de chaque touche. Dans ce passage de 1 Corinthiens, chapitre 12, il est dit ceci au verset 7, « La manifestation de l'Esprit est donnée à chacun, à chacun, à chacun, pour l'utilité commune. En effet, à l'un est donné par l'Esprit une parole de sagesse, à un autre une parole de connaissance. Selon le même Esprit, à un autre la foi, par le même Esprit, à un autre le don des guérisons, par le même Esprit, à un autre le don d'opérer des miracles, à un autre la prophétie, à un autre le discernement des esprits, à un autre la diversité des langues, à un autre l'interprétation des langues. Un seul et même esprit opère toutes ces choses, les distribuant à chacun, en particulier, comme il veut. » Vous avez remarqué, deux fois il est dit « à chacun ». Et nous, au niveau pratique, nous avons notre propre traduction. Nous disons, enfin nous vivons, à quelques-uns. Ce n'est pas à quelques-uns que Dieu veut distribuer ses grâces, c'est à chacun. Chacun d'entre nous. Vous voyez, dans cette liste, voilà, dans cette liste de charismes, de dons spirituels, eh bien, il y a quelque chose pour vous. Et je voudrais vous dire que le baptême dans le Saint-Esprit, c'est la porte d'entrée vers l'exercice, les manifestations des dons de l'Esprit. Dans cette liste que nous venons de lire, quelque chose pour vous que Dieu, dans sa souveraineté, a prévu à votre intention. Un frère disait que quand nous arriverons dans le ciel, enfin, c'est une image, hein, prenez ça pas au premier degré, on va aller dans une grande pièce, il y aura des étagères avec des cadeaux. Et sur les cadeaux, il y aura des noms. Et puis, il y aura écrit une étiquette « Non réclamé ». Vous voyez, peut-être là-haut dans le ciel, même sûrement, il y a quelque chose que Dieu a prévu pour moi, mais que je n'ai pas su recevoir, non réclamé. Il y a des choses que Dieu a préparées pour nous, que Dieu a préparées pour vous. Dieu veut vous utiliser, Dieu veut m'utiliser dans le domaine des dons spirituels. Et il ne faut pas que nous en restions au balbutiement dans ce domaine-là, mais que nous puissions avancer à la gloire de Dieu. Les jeunes, les anciens, vos jeunes gens auront des visions, vos vieillards auront des songes. Vous voyez, il y en a pour tous les âges. Il y en a pour toutes les générations. Il y en a pour toutes les catégories. Béni soit Dieu quand les jeunes exercent les dons spirituels. Béni soit Dieu quand les personnes âgées exercent les dons spirituels. Alléluia. Dieu veut se servir de nous. Est-ce que ce matin, quelqu'un voudra dire là, dans le fond de son cœur, « Seigneur, pour que tu te glorifies au travers de moi, remplis-moi de ton esprit et communique-moi les dons spirituels. » Est-ce que vous priez pour cela? Je vous pose cette question. Répondez-vous à vous-même. Est-ce que vous priez pour cela en disant, « Seigneur, mais il faut que tu te serves de moi, tu l'as promis, et je veux être un moyen, un instrument de bénédiction, n'est-ce pas, pour que tu sois glorifié. » Non pas pour attirer l'attention sur ma petite personne. Non, ce n'est pas l'instrument qui compte. C'est l'instrumentiste, c'est Dieu qui doit être glorifié. Priez pour les dons spirituels. Trop peu souvent dans nos réunions de prière, nous entendons des frères et des sœurs dire, « Seigneur, remplis-moi de ton esprit. Donne-moi d'exercer les dons spirituels. » Il faut que nous entrions dans cette dimension du surnaturel. Quand nous analysons la confession de foi, déclaration de foi des Assemblées de Dieu de France, il est dit que nous croyons à la manifestation des dons spirituels. Mais il ne s'agit pas d'y croire en principe, sur le papier. Il faut qu'on passe, vous et moi, à la pratique. Que faire? L'Écriture dit « aspirer ». Désirer ardemment. Et il nous faut prier quand on aspire à quelque chose. quand on désire intensément, on prie, on supplie, on crie à Dieu et on croit. Et Dieu fait grâce, n'est-ce pas? Mais il faut préciser ceci à propos des dons spirituels. Les dons les plus sublimes n'ont de valeur que s'ils sont exercés dans un état d'esprit qui soit en harmonie avec la volonté de Dieu, avec des sentiments qui honorent Dieu. Dans cet épître aux Corinthiens, au chapitre 12 et au verset 31, l'apôtre dit ceci, « Aspirez aux dons les meilleurs, c'est ce qu'on vient de dire, et je vais encore vous montrer une voie, un chemin, une direction par excellence. » Écoutez la suite, parce que dans ma Bible et dans la vôtre, le chapitre 12 se finit et le chapitre 13 commence et on a l'impression qu'on passe à autre chose. Mais non, il y a une continuité là, voyez. Aspirez aux dons les meilleurs et je vais encore vous montrer une voie par excellence. Quelle est cette voie, ce chemin, cette direction par excellence? Eh bien, Paul le dit, quand je parlerai les langues des hommes et des anges, si je n'ai pas, qu'est-ce que vous avez dans votre Bible? L'amour. Le texte en français, là, c'est la traduction du mot « amour » en grec, mais dans le sens le plus haut, voyez, nous, en français, on n'a qu'un verbe pour dire « aimer ». J'aime le chocolat, j'aime ma femme. Enfin, j'aime pas ma femme comme j'aime le chocolat, hein, sinon il y a du souci à se faire pour elle. Mais dans les Grecs, qui étaient plus intelligents que nous, sûrement, ils avaient plusieurs verbes pour parler de différentes catégories d'amour. Et là, le verbe qui est employé, c'est l'amour dans le sens le plus noble, l'amour d'origine divine, si vous voulez. L'amour. Quand je parlerai les langues des hommes et des anges, si je n'ai pas l'amour, je suis un airain qui résonne, une cymbale qui retentit. Et quand j'aurai le don de prophétie, la science de tous les mystères et toute la connaissance, quand j'aurai même toute la foi jusqu'à transporter des montagnes, si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Voilà, je ne suis rien. Autrement dit, ce qui donne de la valeur, de l'efficacité à l'exercice et les manifestations des dons de l'esprit, c'est quand nous les exerçons dans l'amour et par amour, n'est-ce pas? Et cet amour, vous savez quoi? Cet amour d'origine divine, je ne peux pas le produire, moi. Je peux avoir un amour humain, sentimental, affectif. J'aime ma femme, j'aime mes enfants, j'aime mes amis. Mais ça, même un païen peut le faire, pas vrai? Quelqu'un qui ne connaît rien aux choses de Dieu, il peut aimer de cet amour-là. Mais l'amour de Dieu, il n'y a que Dieu qui peut le produire en moi, qui peut le déposer en moi, oui ou non, c'est vrai? Et c'est le Saint-Esprit qui va produire ça. Dans l'Épître aux Galates, au chapitre 5, au verset 22, je sais que vous savez tout ça, mais je vous le rappelle quand même, parce que c'est tellement important. Galates, chapitre 5, verset 22, voici ce qui est dit. Voici ce qu'il dit. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour. Amen. Et puis tout ce qui va avec, tout ce qui suit, vous voyez, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur, la maîtrise de foi, de soi, pardon, ou la tempérance, selon les traductions. Ça, c'est le fruit de l'esprit. La conséquence de la présence du Saint-Esprit en nous, eh bien, va produire ce fruit excellent, ce fruit excellent. C'est la conséquence directe de la présence du Saint-Esprit en nous. Il faut que ce fruit mûrisse. Tenez la tempérance. C'est quoi ça, la tempérance? La maîtrise de soi. C'est ce qui nous permet de maîtriser nos appétits charnels, entre autres. Voilà. La sensualité, par exemple, l'impureté, voyez, il y a toutes sortes de pressions qui s'exercent, de tentations, nous sommes des êtres de chair, ce que nous voyons, ce que nous entendons, les sollicitations du mal, du péché, et qu'est-ce qui peut permettre à un jeune ou à un moins jeune, d'ailleurs, de résister à la tentation, de ne pas tomber dans le péché, de ne pas pratiquer la fornication, d'être en mesure de se conserver pur, véritablement pur, de corps, d'âme et d'esprit, des efforts. Il en faut, mais ça ne suffit pas. Le fruit de l'esprit, vous voyez. Quand Dieu nous dit de fuir les passions, Dieu ne se contente pas de dire « il ne faut pas, il ne faut pas, il ne faut pas ». Quand Dieu dit « il ne faut pas », il nous donne aussi les moyens, gloire à Dieu, pour que nous puissions résister à la tentation. Et les moyens, c'est ça, c'est aussi la plénitude du Saint-Esprit. Quand le Saint-Esprit nous envahit, nous communique son fruit, son fruit. Ça ne fait pas beaucoup de bruit, le fruit. Je suis en train de surveiller le cerisier, là derrière, et je m'aperçois qu'il y a... Il y a des petites cerises, elles sont encore toutes ouvertes, mais elles sont là. Si ça ne gèle pas, je me dis, c'est bon, cette année, on aura une bonne récolte. Vous voyez ? Ça ne fait pas de bruit. Quand je passe à côté du cerisier, j'entends rien. Hein ? Mais il produit son fruit. Et d'ici quelques semaines, vous allez voir, ça va mûrir, ça va rougir. Et si tout va bien, une semaine plus tard, on va les cueillir. Bien, le Saint-Esprit, vous voyez, il veut produire en nous son fruit. Moi, je ne peux pas produire ça. Je ne peux pas produire ça. Je ne peux pas être doux de nature. Il y a des gens, ils ont de la chance. Ils ont bon caractère. Vous en connaissez ? C'est vrai. Il y a même des païens, ils ont bon caractère. Seigneur, ce n'est pas possible. Hein. Moi, je ne suis pas né comme ça. Mais même si j'ai le caractère que j'ai, vous avez le vôtre. Hein. Et le Seigneur, il dit, mais ce n'est pas un problème. Moi, je veux produire en toi mon fruit, pas le tien, mon fruit. Parce que vous savez, le bon caractère humain, simplement humain, il a ses limites. Vous en connaissez peut-être des gens qui sont patients comme ce n'est pas possible. Un frère me disait, dans son travail, il y avait un responsable, un ingénieur, je crois, il était d'une patience. Un inconverti. Hein. Et puis un jour... Il s'est mis en colère, mes amis, le patient qu'il était, il a explosé. Je n'avais jamais vu ça, vous voyez, ça a ses limites. Ça, c'est humain. Mais la patience que Dieu produit en nous, la douceur que Dieu va produire en nous, la tempérance, j'en ai dit quelques mots, que Dieu va produire en nous, la bonté, la miséricorde, l'humilité, n'est-ce pas, la paix dans l'épreuve, la joie, l'amour, quoi, que Dieu va produire en nous, c'est autre chose, c'est le Saint-Esprit. Alors, vous voyez, le Saint-Esprit veut faire tout ça. Il veut faire tout ça. L'apôtre Paul dira aux Éphésiens, je vais finir, il dit, soyez remplis du Saint-Esprit. Littéralement, remplissez-vous continuellement du Saint-Esprit. Dieu ne dit pas, mes chers amis, mes enfants bien-aimés, il serait bon que vous envisagiez la possibilité, éventuellement, d'être peut-être, si cela vous agrée, de bien vouloir essayer d'être rempli du Saint-Esprit. Non, c'est pas ça, c'est pas un petit conseil. C'est une injonction, c'est un impératif. Soyez remplis du Saint-Esprit. Ce n'est pas facultatif. Ce n'est pas une option, comme quand tu achètes une voiture. Il y a des options. C'est plus cher, d'accord, hein ? Les vitres teintées, je ne sais pas moi, la peinture métallisée, enfin un tas de trucs. Hein, moi, j'ai deux vieilles bagnoles, il n'y a aucune option dessus. Hein. Enfin, les gens, aujourd'hui, quand ils achètent des voitures, bientôt, ils pourront lâcher le volant et ça conduira tout seul. Hein. C'est optionnel, c'est facultatif, mais c'est plus cher. Et c'est pas ça. Je dis, tu as l'option. Tu peux vivre avec, mais tu peux faire sans. Ouais. Bien sûr, je peux aller au ciel sans être baptisé du Saint-Esprit. Je peux aller au ciel sans avoir jamais exercé les dons spirituels. Je peux vivre aussi avec une jambe amputée. C'est pas vrai ? Mais c'est quand même mieux d'avoir les deux. Eh bien, la vie de l'Esprit, voyez, ça fait de nous des chrétiens complets. Et Dieu ne veut pas, je vous le dis avec respect, je me le dis à moi aussi, que nous soyons des handicapés, des infirmes spirituels, mais que nous soyons bien équipés, remplis du Saint-Esprit. Et ce matin, le but, ce n'est pas de se dire, ah là là, on est loin du compte, on est des misérables. Courbons nos têtes et humilions-nous. On est des bons à rien. Non. Ce que je vous dis, c'est dans le but de, ah Seigneur, j'ai soif de vivre ça. Et je crois que je peux le vivre. Parce que la parole dit, la promesse, elle est pour les autres. Non, non. Elle est pour vous. Elle est pour moi. Et pour tous ceux qui sont au loin, un aussi grand nombre que le Seigneur, notre Dieu, les appellera. Quand l'Esprit nous saisit, c'est formidable. Hein? J'ai souvent vu des gens, hein, je pense à plusieurs exemples de gens sur le plan de l'éducation, très, 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 très simple, je dirais même très, très limité, mais mes amis, quand ils étaient saisis par l'Esprit, waouh! Par exemple, ils prophétisaient, ils avaient des expressions, ils avaient un vocabulaire, ils avaient un ton, ils avaient une autorité, vous voyez, pas parce qu'ils criaient plus fort que les autres. Quelque chose qui venait de Dieu. Mais moi, j'ai soif de ça. Ce qui vient de Dieu. Seigneur, remplis-nous du Saint-Esprit. Amen. La promesse, elle est pour vous. Est-ce qu'on peut dire ce matin, la promesse, elle est pour moi? Ah, non, c'est pas le diable vous dire, oh, tu es un orgueilleux. Non, non, non. Vous ne faites que demander, que réclamer humblement ce que Dieu vous a promis. Seigneur, la promesse, elle est pour moi alors qu'elle s'accomplisse dans ma vie. Et je veux croire que quelles que soient mes limites, quelles que soient mes lacunes, Seigneur, tu peux encore me faire grâce. Et même si j'ai quelques expériences dans ce domaine-là, je veux aller plus loin. Est-ce qu'on peut faire des progrès? Mais oui, on peut faire des progrès. Même à 80 ans, on peut faire des progrès. On peut faire des progrès. On peut aller de l'avant. On peut entrer dans une nouvelle dimension. Que Dieu nous aide. Que Dieu nous aide. Que nos rassemblements, que nos cultes deviennent en quelque sorte un morceau de ciel sur la terre. Parce que l'Esprit de Dieu agira au milieu de nous. On prie quelques instants.